Chapitre 30. Cette nuit-là, tout en dormant d'un sommeil agité, Nietzsche arpentait aussi les rues obscures. Très perturbé après le banquet en compagnie des Norokaïs, son esprit avait d'instinct cherché du réconfort dans le lien avec Mra. Dans le labyrinthe de rues d'Ildakar, la panthère du désert rôdait comme une ombre intimement unie aux ténèbres. Quand elle eut établi le contact avec sa sœur Féline, Nietzsche se contenta d'un rôle d'observatrice. Sentant la puissance du fauve et l'acuité de ses sens amplifiés, la magicienne se réjouit de voir à travers des yeux pour lesquels la nuit, si dense fut-elle, n'était pas un obstacle. La plus faible étincelle suffisait. Pour Mra, chaque odeur racontait une histoire. La puanteur de l'eau saumâtre des pots de chambre vidés dans les caniveaux, la senteur bien plus rafraîchissante de l'onde qui courait dans les petits aqueducs, l'odeur musquée des rats tapis dans les ténèbres, le parfum presque fraternel des chats qui les traquaient sans relâche. Sur le rebord des fenêtres, des fleurs coupées diffusaient des fragrances ignoblement douceâtres. Après avoir sauté sur un muret de pierre, Mra passa presque sans effort sur un toit, le traversa souplement puis bondit vers un autre. Pendant la journée, elle avait trouvé une tanière provisoire où dormir en toute sécurité. Un grand entrepôt à grains plongé en permanence dans une pénombre complice. Peu d'humains y entraient, et on y trouvait assez de rats pour remplir correctement le ventre d'une panthère. Cela dit, la poussière faisait gratouiller ses naseaux, la forçant à éternuer plus souvent qu'à son tour. La nuit, elle explorait sans hâte la grande cité. Passant devant l'endroit où le dresseur en chef torturait les animaux de combat, elle rugit malgré elle les babines déjà retroussées. Dans son sommeil, Nietzsche plia les doigts comme si c'était des griffes, prêtes à déchiqueter le responsable des mauvais souvenirs qui hantaient sa sœur d'élection, bien avant que la troca ait réussi à s'échapper. Au même moment, Mra se souvint de la douleur, du sang et des combats. Dans le tunnel de cauchemar, elle sentait la présence d'une autre troca. Des frères et des sœurs, maltraités comme elle l'avait été, leur esprit manipulé par le don impie du dresseur. Comme Mra naguère, ces fauves haïssaient l'humain, mais ils lui obéissaient, déchiquetant des proies dans l'arène alors que c'était lui qu'ils auraient voulu tailler en pièces. Mra avait le même désir, et Nietzsche le partageait avec elle. La panthère bondit dans les ténèbres, décidée à gagner la haute ville afin d'y retrouver sa sœur humaine. Mais Nietzsche l'implora d'être prudente et de rester loin de la grande villa. « Attends, ma sœur !» pensa la magicienne dans son sommeil. « L'heure n'est pas encore venue. » Quelques heures après minuit, des rêves félins encore plein la tête, Nietzsche se réveilla. Lucide et impatiente, même si le soleil ne se lèverait pas avant longtemps. Sentant encore dans ses membres la puissance des muscles de Mra, elle enfila sa robe noire et sortit. En arpentant les rues, elle songea à sa sœur Féline, qui faisait la même chose non loin de là, mais décida qu'une rencontre serait bien trop risquée. Du coup, elle se déplaça dans les ombres comme une magicienne, pas comme une panthère du désert. Mais ce serait suffisant en matière de discrétion. Dans une rue, elle longea une rangée de saules dont les feuilles tombantes bruissaient au vent comme si elles murmuraient entre elles. Aux intersections, des sphères lumineuses montées sur des piédestaux de fer diffusaient une lumière bleue qui permettait de s'orienter. Sans trop leur accorder d'attention, Nietzsche passa devant des maisons de nobles outrageusement ornementées, en proportion inverse de l'importance du propriétaire, aurait-on dit. Dans une ruelle, elle vit luire les yeux d'un chat tigré orange en quête de sa pitance. Dès qu'il l'aperçut, le félin détala sans demander son reste. Sur son chemin vers le bas de la ville, la magicienne vit une série de tavernes et d'auberges, les seuls bâtiments encore éclairés. Dans les maisons des marchands et des travailleurs, on dormait à point fermé. Sur une place déserte, la promeneuse nocturne s'attarda un moment devant une fontaine d'où coulait un mince filet d'eau. Puis suivit au-dessus de sa tête le lent mouvement des étendards d'Ildakar à peine agités par le vent. Sur le mur d'un bâtiment, elle capta une lueur caractéristique. Approchant, elle vérifia qu'il s'agissait bien d'un éclat de miroir fiché entre deux blocs. Sur le mur d'en face, elle repéra son frère jumeau. Tous les sens aux aguets, la magicienne fit le tour de la place et trouva des éclats sur tout le périmètre. Un défi lancé au pouvoir en place à la faveur de la nuit. Dans une ruelle, des silhouettes encapuchonnées bougeaient presque imperceptiblement. Loin de vouloir s'enfuir, elles semblaient attendre quelque chose. Nietzsche leur fit face, certaine de pouvoir se défendre avec son don. Puis elle attendit aussi. Les inconnus cachés dans les ombres ne firent pas un geste et ne dirent pas un mot. D'instinct, Nietzsche se pencha, ramassa un éclat de verre et le brandit. Plusieurs silhouettes avancèrent, le visage caché par un foulard noir. Sur chaque poitrine, Nietzsche remarqua une amulette en bois ornée d'une rune typique d'Ildakar. Secouant la tête pour que ses longs cheveux blonds ondulent autour de son visage, elle lâcha « Moi, je n'ai pas besoin de me cacher. » « Nous, si, » dit un des inconnus. « Il nous reste tant à faire pour sauver notre ville. »«
Je ne suis pas d'Ildakar. » »«
Nous le savons, »
dit un autre inconnu. Tous se tournèrent vers le bout de la rue d'où ils venaient, puis firent signe que la voie était libre. En longue tunique grise, une autre silhouette émergea des ombres. Sur son visage, Nietzsche vit un étrange kaléidoscope d'images. Les reflets d'un miroir en mouvement. L'inconnu portait un masque miroir.
« Je te connais, » dit Nietzsche. « Du moins, j'ai entendu parler de toi. »
« La ville entière me connaît, » répondit l'homme, sa voix étouffée par le masque muni de deux fentes pour les yeux, une pour le nez et une autre pour la bouche.
« Tous les esclaves et tous les citoyens humbles d'Ildakar savent qui je suis. Nous luttons pour la liberté. Certains nous soutiennent ouvertement et d'autres dans le secret de leur cœur.
« Les sorciers veulent te tuer, » dit Nietzsche.
« Beaucoup ont essayé, mais sans succès, comme tu le vois. En attendant, mes partisans libèrent les esclaves maltraités par les plus mauvais maîtres. En ville, nous avons des cachettes, puis les évadés filent dans les collines dès qu'une occasion se présente. À partir de là, ils peuvent recommencer leur vie où ils veulent. Mais nous devons agir vite, tant que le linceul est désactivé. Si beaucoup d'esclaves s'en vont, les sorciers n'auront pas assez d'énergie pour leur œuvre de sang.
Dans ce cas, pourquoi ne fuient-ils pas tous? Et pourquoi restes-tu?
Parce que c'est ici qu'a lieu la bataille. Je resterai jusqu'à ce que nous ayons renversé le conseil et mis un terme à l'oppression. C'est mon objectif.
Et il est louable.
Repensant au marché aux esclaves, Nietzsche sentit sa rage se réveiller.
Je suis de ton côté et mes compagnons aussi. Si tu as un plan, nous t'aiderons. Mais à Ildakar, les oppresseurs sont puissants.
Masque miroir acquiesça.
Puissant, oui. Mais pas invincible. Nous t'avons observé, magicienne.
Nietzsche ne cacha pas sa surprise.
Vous avez des partisans au sein du Douma et dans la villa de Tora?
Nous en avons partout. Ton cœur, nous avons pu lire dedans. Tu es vraiment de notre bord, magicienne Nietzsche.
Nietzsche prit garde à ne pas céder à un enthousiasme excessif. Tout ça, c'était presque trop beau.
Trouver des alliés loyaux n'est pas facile. Qui es-tu? Portes-tu vraiment ce masque parce qu'un sorcier de chair t'a défiguré?
Masque miroir eut un rire rauque.
C'est ce qu'il raconte. Eh bien, c'est peut-être vrai. À moins que ce masque vise à inciter les gens à se regarder en face et à se demander ce qu'ils peuvent faire pour la cause.
Cette cité jadis glorieuse mijote dans son jus de médiocrité depuis qu'elle est piégée sous le linceul. En passant, linceul est un mot très bien choisi puisqu'on enveloppe les morts dedans.
Les partisans de Masque Miroir approuvèrent du chef.
Nous faisons notre possible, Nietzsche. Mais toi, tu as de très grands pouvoirs. Tu peux inverser le rapport des forces dans cette ville. Nous t'avons observé. « Oui, »
répétèrent les partisans de Masque Miroir.
Nous t'avons observé.
D'une fine main très pâle, le chef de la rébellion ramassa un éclat de verre et le posa dans la paume de Nietzsche.
Prépare-toi.
Sur ces mots, il referma les doigts de la magicienne sur l'éclat, pas au point de les couper, mais assez pour qu'il sente son tranchant acéré.
Réfléchis, comme les miroirs réfléchissent.
Dans un bruissement de tissu, Masque Miroir se détourna et s'éloigna, ses partisans sur les talons. Se félicitant d'être sorti si tard, Nietzsche resta là, l'éclat de verre dans la main.
Désormais, elle voyait l'avenir d'Ildakar sous un jour moins sombre, parce qu'elle venait de se trouver des alliés.